This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Mon cœur, mon amour, n'est que pour une personne à la fois, mais mon cul, non. Alors, non. Hello,
bonjour, bonjour, bonjour.
Je suis Rue Paul.
On est dans toutes les langues, finalement. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de LMK. On est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode dans cette magnifique semaine de pluie, je crois, pour toute la France. Je ne suis pas là pour m'exercer à être Miss Météo, pas du tout. Je suis Marie-Stéphanie Servos, rédactrice en chef de Mademoiselle. Maintenant, vous me connaissez, je crois. Et je suis accompagnée, alors c'est un LMK un peu spécial, on est trois aujourd'hui. Je suis accompagnée donc à ma droite de Ariane.
Et bonjour à tous et à toutes, je suis ravie d'être là.
Ça va ?
Ça va super, merci beaucoup. Franchement, je suis bien, cool. Reposée, en forme. Bon, le temps pourrait être meilleur, effectivement. Mais...
on a toujours quand même un point météo dans ce podcast. Voilà.
Non, mais écoutez, mais soyons positifs. Fait est que ça joue énormément mais sur mon moral. Mais
pareil.
Vraiment. Donc, ouais.
Pareil de ouf.
Voilà, hein.
Et l'autre voix que vous entendez et que vous connaissez également, c'est celle de Fanny. Ça va, Fanny ?
Coucou, Fanny !
Coucou, ça. Je suis sûre qu'on va faire aussi long que quand on est quatre.
Ah bah bien sûr ça. Parce qu'on va se dire justement, ah, on peut parler un peu plus, on est que trois, bien sûr.
Et en plus, on commence en retard. Bon là,
oh
les gens ne le savent pas.
Là, là, je suis déjà stressée. En tout cas, on fait de gros bisous à Kalindi, puisque Kalindi aurait dû être avec nous dans cet épisode.
Ah ouais,
aujourd'hui.
Tu la dénonces.
Mais non, mais je la,
tu la dénonces.
Mais je la dénonce. Mais non, je la dénonce pas. Je la dénonce pas parce que je trouve que son message d'excuse où elle s'excuse platement est trop mignon parce qu'elle dit j'ai commis une erreur d'agenda et voilà, je voulais juste partager
c'est mignon,
ça avec
Andy.
Vous. Kalindi, sache qu'on ne t'en veut pas du tout, je ne t'en veux pas du tout.
Je crois vraiment qu'elle va écouter.
Ça arrive, bien non. J'espère. Si elle vient, si Kalindi, tu viens la semaine prochaine et que tu ne dis rien, c'est donc que tu n'as pas écouté.
Il faut dire aux auditrices de dire à Kalindi
voilà.
D'écouter cet épisode.
Exactement, voilà. On lui fait une petite dédicace. Et non, au pire, je lui enverrai un message pour la prévenir quand même, si jamais. Mais en tout cas, j'ai bien aimé cette expression, j'ai commis.
C'est vrai que c'est très bien.
Une erreur d'agenda. On est quand même ravis d'être là toutes les trois.
Oui. Ouais.
Pour débuter cet épisode, j'ai une question à vous poser qui, comme chaque semaine, n'est pas née du fruit de mon imagination. Parce que comme chaque semaine, j'arrive en disant « Hey, j'ai pas de questions d'intro !» Et là, eh ben, quelqu'un sort sa carte magique et c'est son imagination incroyable. Et la question de cette semaine nous a été soufflée. Par Fanny.
Mais oui, j'ai toujours. C'est mon métier de poser des questions, donc j'adore ça.
Voilà. Et très belle question, on s'est dit, pour voilà, contrebalancer ce gris ambiant, poser une question mignonne. Quelle amoureuse êtes-vous ?
Waouh, vaste sujet.
Vas-y, Ariane, on t'écoute.
Tu es lancée.
Alors, déjà, je vais commencer ma réponse par dire que je crois que je n'ai jamais été amoureuse de ma vie.
Ah ouais ?
Ouais.
Waouh.
Je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Alors quand je le demande aux gens, souvent leur réponse est « Mais tu le sais quand tu es amoureuse. » Et je n'ai jamais su. Donc je, bah je.
Ça se trouve tu l'as été, mais t'as ta propre définition de l'amour si ça se trouve.
En tout cas, enfin non, vraiment, je pense que j'ai jamais été.
Ouais.
Parce qu'en fait, moi, dans les relations, je me fais méga chier au bout de genre 8 mois, quoi.
En ce fait, qui est déjà pas mal.
Ce qui est pas mal. Là, et en plus, j'ai quand même eu des relations qui ont été plus longues que ça. Parce que je peux. Enfin, c'est pas. J'aime les meufs avec lesquelles je suis. Mais je me projette pas plus que ça. Voilà, je me vois. Par exemple, ma hantise, habiter avec quelqu'une, ma hantise. Tout simplement, je peux pas imaginer, je peux pas concevoir ça. J'ai besoin de mon espace. Donc, tout ça pour dire que je suis une amoureuse. indépendante. J'aime continuer à avoir mes sorties, mes amis, ma vie complètement en dehors de ma relation amoureuse. Et souvent, je mélange très peu mes relations amicales, etc. ou autres, et mes relations amoureuses.
Tu compartimentes.
Je compartimente, exactement.
D'accord.
Et le fait est que quand j'étais plutôt ado et que j'étais donc fougueuse, voilà, j'avais tendance à faire l'inverse, c'est-à-dire à être tout le temps collée avec la personne, tout mélanger, vouloir passer le plus de temps possible avec elle. Et le truc, c'est que je me suis rendu compte assez vite que ça me convenait pas du tout et que je me sentais hyper étouffée hyper vite. Ce qui est encore quelque chose que je ressens aujourd'hui. Mais j'essaye de mettre en place certaines choses pour que ça n'arrive pas, à savoir garder mes hobbies, garder les sorties que je fais en général, garder bien mes amitiés, je continue à les voir autant qu'avant, etc. Et c'est vrai que ça m'aide à ne pas me sentir étouffée au bout de vraiment genre 2 mois de relation, quoi.
Quand tu dis que... Je vais rentrer dans les questions psycho.
Allez, c'est parti, j'adore.
Les questions de Marie-Stéphanie.
Enfin, souvent, au bout de 8 mois, tu t'ennuies, tu t'essouffles. Est-ce que tu sens quand même qu'il y a un pic en début de relation et une décrue? On est toujours sur un vocabulaire très météorologique.
Ou, une dépression sur la Bretagne qui passe.
Est-ce qu'il y a une dépression dans ton cœur?
Bah oui, il y a clairement l'énergie de la nouvelle relation, la new relationship energy, comme on dit dans la commu polia.
Ah.
Oui, parce que j'ai oublié ce détail, c'est que je ne suis pas une amoureuse exclusive.
Ah.
J'ai pendant des années lutté contre ça et en fait à un moment donné je me suis rendue à l'évidence, enfin moi j'arrive pas en fait à être monogame. Mmh. Et oui il y a clairement une énergie quand je rencontre la personne, je suis hyper enthousiaste, j'ai envie de faire beaucoup de choses, voilà, et après en fait ça perd en intensité, oui clairement. Mmh.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un lien finalement entre, tu vois... Pardon, j'arrête. Je ne sais plus quelle auditrice de LMK m'avait dit que j'avais la voix de sa psy. Voilà,
oui,
c'est pas tombé là-dedans. on continuera cette discussion plus tard.
Fabie, moi, c'est qu'en comme est-il toi, Ariane, en fait. C'est que... Alors, oui et non. C'est que je suis amoureuse, vraiment. Alors, mais j'ai retrouvé, quand j'étais au Maroc, là, des journaux intimes de moi quand j'avais 11 ans. Mais laisse tomber comment je parle des mecs, j'en parle comme maintenant. Enfin, c'est vraiment...
Ah ouais ?
Je suis
incroyable. Énorme.
Quand je suis amoureuse, mais vraiment, je suis très amoureuse. Mais en fait, dans la vie en général, quand je suis passionnée, c'est vraiment la passion. Pendant longtemps, je pensais que j'étais monogame. Spoiler, non. Et donc, depuis... ça fait maintenant plusieurs mois que je suis en couple ouvert. Et déjà, ça m'a fait un bien fou de me dire, oui, je peux être amoureuse et tout ça. Mais alors, je ne suis pas polyamoureuse. J'ai testé d'avoir 2 amoureux et je pensais pouvoir aimer 2 personnes à la fois et en fait je me suis rendu compte que non, malheureusement j'ai un peu fait du mal à l'autre personne, mais je dis mais j'étais sincère tout le temps, je pensais vraiment que je pouvais être amoureuse de 2 personnes en même temps, donc finalement non, mon cœur mon amour n'est que pour 1 personne à la fois, mais mon cul non, alors non. On va dire ça, je suis une amoureuse envers une seule personne exclusive, mais je peux avoir de la tendresse pour plein de gens. Donc voilà,
est-ce que tu peux faire les 2 en même temps ?
Oui, bah, les 2 en même temps, mais voilà, tu vois, quand la question c'est de quelle amoureuse es-tu ? Bah, je suis une amoureuse pour une seule personne, mais je vais être vraiment dans le cliché de mon cœur, mon amour, mon chouchou et tout ça. Moi, laisse tomber tous les surnoms à la con et tout.
Ah, moi, j'adore.
Ah, j'adore. Là, vraiment, c'est
mon bébou.
Avec mon mec actuel, c'est quand on a commencé à se donner des surnoms. J'ai oh, trop bien.
Ah ouais.
On est au moment des surnoms débiles.
C'est ma j'adore. Hantise.
Mais... T'en donnes pas du tout, Ariane ? Genre 0-0 ?
Mais si, j'en donne, mais...
Mais c'est pas cucu, la praline,
non,
quoi.
Non, c'est pas archi-cucu, quoi. Ouais. Ça va être genre des surnoms en rapport avec le prénom de la personne, ou alors si... Bon, en vrai, j'ai des surnoms, mais pas non plus bébé chéri d'amour, quoi.
Mmh. Alors, moi, c'est juste babe, par exemple. Mmh. Il y a des choses qu'on dit babe. Que tous les deux, on va jamais se dire ça devant d'autres personnes, par contre.
Ok. Ouais.
C'est vraiment, c'est notre... Voilà, bien sûr, là, je l'ai dit à plein de gens, là, du coup. mais c'est vraiment, c'est dans l'intimité qu'on va être comme ça. On va pas être comme ça devant les autres, parce que c'est les moments, en fait, où tu te relâches.
Okay.
Et donc, voilà, donc je suis une amoureuse très... Je soutiens à fond mon mec, je suis vraiment... voilà, je suis très très investie dans la relation et voilà. En plus, surtout maintenant que je suis en plus une amoureuse à distance. Tu vois, par exemple, j'aime bien mon indépendance.
J'aime bien le fait, voilà, de, bah, ça va un peu avec le fait d'avoir une relation ouverte, mais j'aime bien là, le fait de rentrer chez moi des fois, d'être seule et tout ça. Mais bah, finalement, c'est, ça permet qu'il me manque encore plus. Mmh. Donc je développe ce côté-là parce que ma relation d'avant, on était exclusifs à vivre ensemble pendant 10 ans. Donc là, toute une autre...
Ça a changé du tout au tout, quoi.
C'est ça. Mais il y a eu de la transition quand même, donc ça va. Mais en fait, finalement, là, pour l'instant, ça me va bien. Après, on ne sait pas dans quelques années où j'en serai. On verra.
Ok, super.
Et toi, Marie-Stéphanie ?
Eh bien, écoutez, tout ce que vous dites me parle énormément. Enfin, et en même temps pas, et en même temps m'intéresse grave, parce que moi, ça m'intéresse grave aussi de voir le rapport des gens aux relations amoureuses. Mais le point sur l'indépendance m'intéresse particulièrement, parce que moi, je suis vraiment une petite Madeleine, un petit cœur fondant. Vraiment, je croyais, je vais vous expliquer pourquoi je dis je croyais, mais je croyais tomber amoureuse plein de fois. Et à chaque fois j'étais c'était le drame, parce que généralement je tombais sur des énormes connards,
évidemment
dis. Voilà, si vous m'écoutez, vous savez que c'est de vous dont je parle. Les mecs.
Même.
Et en fait, et je pensais vraiment, les hommes, avec un Z. et je pensais vraiment être tombée amoureuse, mais je ressentais systématiquement ce besoin de compartimenter aussi. Vraiment, je me disais, je suis en couple avec tel mec, je suis folle amoureuse de lui, enfin, j'ai l'impression en tout cas. C'est que de telle heure à telle heure. Oh. J'ai besoin, c'était pas vraiment de telle heure à telle heure, t'imagines bien.
Ah non, 15h05, c'est fini.
J'ai envoyé une envie de Google. L'angoisse. J'avais besoin, surtout que moi je suis une personnalité qui adore être avec les autres, mais qui adore encore plus être seule. Et plus je suis avec les autres, plus j'ai besoin d'être seule aussi, d'avoir des moments de, tu vois, où tu récupères un peu. Et du coup, j'avais besoin d'être seule par moments. Et donc, je me sentais pas vraiment de les laisser entrer complètement dans ma vie. Et... j'ai rencontré mon mec actuel, qui est mon mari.
Oui, tu es une femme mariée.
De ma fille,
c'est
ouais.
C'est quand même mariée. Attention.
Et oui, quand même, faut le dire.
On a au moins une femme respectable avec nous aujourd'hui. Oh.
Ne propageons pas ce genre d'informations, s'il vous plaît. Pas de ma respectabilité, mais en tout cas du cadre marital comme cadre
évidemment
respectable.
Oui, voilà.
Et quand je l'ai rencontré, alors vraiment, en fait, c'est la seule fois dans ma vie où c'est la seule fois de ma vie où j'ai eu un coup de foudre, un vrai coup de foudre. Et pourtant, on s'est rencontrés sur Tinder, donc.
C'est ouf ça.
Et c'est ouf. Et quand je l'ai vu, pourtant, 2 jours après qu'on se soit parlé pour la première fois, j'ai eu un énorme coup de foudre. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai découvert ce que ça voulait de dire, justement, être, pour moi en tout cas, vraiment amoureuse. Parce que déjà, toutes les relations que j'avais eues avant, j'étais là genre, mais ça, c'était pas de l'amour, en fait. Ça, c'était une fantaisie, un délire que je me faisais d'une personne qui n'était pas du tout pour moi, en fait, et que je me figurais tout autrement. Et alors, il y a eu 2 choses. C'est que j'ai réussi à l'intégrer dans mon quotidien, justement. Je voulais l'intégrer dans mon quotidien. Et ça ne posait pas de problème sur ma liberté et tout ce que je voulais faire à côté, parce qu'on s'est toujours laissé même si on a eu des moments de fusion vraiment intense.
Vous avez fait un enfant, donc oui. Oui, on n'est que toutes les trois, on se lâche aujourd'hui.
Alors, je ne parlais pas de ça, mais évidemment.
On n'a pas assez parlé de cul dans ce podcast. Hein,
c'est vrai. Oui, ça faisait partie des moments de fusion intense. Voilà.
LMQ.
LMQ, LMQ is back.
Mais c'est intéressant parce que tu vois ce que tu disais sur tu confondais. Moi, je pense que pendant longtemps, j'ai confondu amour et désir. Il y a très souvent où j'avais des coups de cœur pour des mecs ou des meufs. Et en fait, je me suis rendu compte après, notamment avec la psychanalyse, que en fait, j'avais du désir pour ces personnes, mais pas de l'amour. Ouais. Et que vraiment, en rétrospectivement, comme tu dis, d'avoir ressenti de l'amour fort après pour certaines personnes, mais pour d'autres, c'était pas de l'amour. Ouais. C'était du désir, je voulais ken. Non, pas que. Mais voilà, ça a été vraiment de me rendre compte. Et maintenant, effectivement, quand je te dis que je suis amoureuse que d'une personne, et pour d'autres, j'ai soit de la tendresse, soit du désir. Mmh. Et vraiment, maintenant, je sens mieux la différence et ça me fait du bien. Parce que
c'est
sinon, tu dis, oh là là, je suis perdue et tout ça.
C'est trop, trop intéressant ce que tu dis, parce que moi, ce qui m'a fait me rendre compte que c'était de l'amour aussi, c'est que vraiment, ça faisait quelques jours qu'on était ensemble, mais j'étais déjà dingue de lui. Et je le regardais et je me disais, et on mangeait des sushis. Et je me suis dit, c'est très... attention, il faut savoir que j'adore bouffer. Je me suis dit, je pourrais lui filer le reste de mon assiette de sushi. Et en fait, c'est con, mais je me suis dit, est-ce que l'amour, c'est pas un peu aussi donné, tu vois? L'amour, c'est donné. Non, mais.
Donné.
Je me suis dit, je serais capable, si je devais manquer de quelque chose, de lui donner avant de... Aujourd'hui, c'est le cas avec ma fille, par exemple. Mais... Mm. Et je sais pas, et c'est vraiment là où je me suis dit, mais jamais j'aurais eu une approche similaire avec un autre mec. Et où je me suis dit, c'est peut-être ça. Alors, je sais pas forcément la définition de l'amour, hein, mais en tout cas... C'est là où je me suis dit, c'est un truc supérieur à justement au désir.
Alors que moi, tu vois, ça ne marcherait pas avec moi parce que vu que je suis d'origine marocaine séfarade, je veux donner à manger à tout le monde.
Moi, ça ne marcherait pas.
Bah ouais, moi, tu viens chez moi, tu es nourrie, tu as à boire, tu as un plaid si tu as froid, tu veux quelque chose. Tu veux quoi? Vas-y, attends.
Viens chez toi.
Ah, mais quand tu veux. Là, j'ai une copine qui est chez moi en ce moment, qui est en télétravail, et vraiment, je lui ai dit, attends, là, tu as des gâteaux, là, tu as du thé, là, si tu as froid, tu as le plaid, tu veux quelque chose. Voilà, c'est.
Mais
la
enfin,
base.
C'est comme j'adore. Ça qu'on accueille des gens là-bas.
Mais oui, c'est la base. Ouais. Donc c'est bien, c'est intéressant, on a des définitions de l'amour assez différentes, ouais. C'est chouette.
Ouais.
Mais j'adorerais continuer cette discussion.
Mais moi aussi ça me passionne, ouais. La façon dont les gens envisagent leur rapport amoureux aux autres, je sais pas, c'est vraiment passionnant.
On devrait faire un LMK spécial amour et relations.
Mais on pourra oui, un LMK spécial.
Un LMK.
Oh oui, on fait ça.
Dites-nous, les auditeurs et les auditrices, si vous aimez bien les épisodes un peu thématiques comme ça. Et sur quoi vous aimeriez aussi nous entendre? Nous, visiblement, on a très envie de vous parler de nous.
Donc, j'imagine qu'au bout d'un moment, les gens doivent connaître toutes nos vies privées à force d'en parler.
C'est clair.
C'est vrai.
Moi, j'avoue, alors, je peux vous confier quelque chose. Vas-y. C'est que, alors, auditeur, auditrice, il arrive que parfois, je coupe, vu que je fais le montage moi, parfois, je coupe certaines anecdotes que je dis de moi.
Oh
oui, au montage, je me dis, non, mais là, Fanny, t'as raconté un truc trop perso. Non, je coupe. Mais je coupe pas vous. C'est vraiment
Yann.
Que moi.
Ouais.
C'est que
nous pousse à nous
moi.
Confier et après elle se coupe. Tu
c'est de la manipulation, Fanny.
Non, mais par exemple, quand j'ai parlé de mes voisins, au montage, j'ai coupé des trucs parce que je me suis dit, ah là, c'est des trucs un peu trop
mais
la vie d'autres gens.
Voilà, ça implique d'autres personnes.
Ça,
oui, c'est
mais
pas pareil.
Si je parle de mes relations, bah, je parle un peu de la vie d'autres gens aussi quand même. Donc bon, voilà. Donc non, mais voilà, c'est une petite confession de voilà, parfois, je m'autorise. Vu que je passe mon temps sur le montage, c'est le luxe que je me suis donné de parfois
tu
couper.
Tu es pardonnée.
Tu as raison.
Tu es toute pardonnée, Fanny. Et tu sais quoi?
Oui.
Ceci n'est pas une transition, mais c'est l'heure des commentaires. As-tu un commentaire?
Oui, j'en ai eu un. Alors, j'ai reçu de la part de Zek. Bonjour Zek. Qui bonjour, me dit « Hello Fanny, j'écoute le LMK d'il y a 15 jours, donc il y a je ne sais pas quand. J'ai aussi déménagé de chez mes parents à 18 ans pour partir étudier vers un autre pays, de France vers l'Angleterre. Donc, je comprends complètement le côté d'être obligé de se créer son chez-soi et de couper le cordon. J'ai eu des coups de moins bien de temps en temps au début, mais j'étais prête et donc c'était quand même une super belle expérience. Et quand je suis revenue pour les vacances, j'ai compris que je ne pourrais plus jamais vivre chez mes parents. Le goût de l'indépendance avait pris le pas. Ben oui, moi c'est un petit peu ça aussi, donc je te comprends.
Trop mimi.
Mais oui.
Trop chou. Merci pour ce commentaire.
Ouais. Ben moi j'ai reçu un commentaire de Louise K qui me dit « Marie-Stéphanie, ton histoire de voisin qui tambourine à la porte m'a fait dresser les cheveux sur la tête. Je vis seule et je t'avoue qu'avoir une personne qui s'introduit chez moi est ma plus grande phobie. C'est la pire histoire d'Halloween que j'ai entendue cette année. Merci pour tes recollectures. Ça ne calme pas ma trouille. L'idée de vivre dans des maisons transparentes, je défaille. Je pense malgré tout que je vais offrir le livre de Lilia Hassen à ma maman pour les fêtes. Pas pour la faire flipper, mais parce qu'elle m'a déjà glissé à l'oreille qu'elle aimerait lire un de ses romans. Des bisous.
Ah, mais trop bien.
Merci Louise pour ce message. Écoute, ravie d'être pour toi l'histoire la plus flippante d'Halloween, vraiment. J'espère que tu la raconteras. Voilà. Et que tu effraieras autour de toi.
Moi, c'est pas contre toi, mais celle d'Anthony, je la trouvais plus flippante.
Attends, c'était quoi?
Bah, avec le voisin qui rentrait pour toquer aux portes. Enfin, c'était pas un voisin, mais justement un mec qu'on connaissait pas, qui venait, qui toquait.
Oui.
Je trouvais ça très effrayant aussi.
Oui,
hein.
Oui. Moi, ça me fait plus flipper. Parce qu'à la limite, là, le mien, il était bourré.
Bah,
donc,
c'est ça,
oui. Tu peux remettre ça sur le compte de l'alcool, mais le sien avait l'air assez malveillant.
Ouais,
quand même.
Moi, ça me faisait peur.
Donc bon. Mais chacun sa trouille. Et en effet, le livre de Lilia Hassen que j'avais recommandé, qui s'appelle Panorama, si vous n'avez pas écouté l'épisode en question, ça fait tout aussi flipper. Et j'espère qu'il plaira à ta maman. N'hésite pas à me le dire, du coup. Bon, en tout cas, toutes les personnes qui, autour de moi, m'ont dit l'avoir lu... l'ont adoré.
J'ai l'impression que beaucoup de gens l'ont offert après que tu leur en aies parlé. Je me trompe?
Il y a eu moi déjà, je t'en ai parlé dans l'épisode précédent.
Non, mais tu es vraiment une influenceuse livre.
Je vais lancer ma carrière. Voilà, je le dis officiellement, chers amis.
C'est avec plaisir.
Chers éditeurs, chères auditrices, je vais lancer ma carrière de book.
C'est bien, c'est un lien avec ce que tu fais déjà, donc c'est pas plus
mais grave. Puis j'adore, je kiffe en fait. Là, je suis en train de. Non, je vais pas spoiler. Je suis en train de lire un livre. Si, en vrai, je peux vous le dire, les auditeuristes, moi je suis en train de lire Triste Tigre de Neige.
Super, Sinner. J'ai envie de le lire.
Voilà. Et
enfin,
ben,
super.
Bah, oui. Mais alors, on en reparlera dans un prochain épisode, mais je serai preneuse de vos retours. Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que vous ne l'avez pas lu? Pourquoi? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que perso, je n'avais pas du tout envie de le lire.
Tu peux rappeler un peu ce que c'est?
Ouais. C'est, c'est un livre qui a reçu le prix littéraire du monde, le prix Femina, et d'autres prix, je crois. Et c'est le récit d'un inceste qui a duré pendant à peu près 10 ans.
Ah oui, donc encore une lecture bien fun.
Ouais,
ou quoi
voilà, une lecture bien fun, mais c'est pour ça que je ne voulais pas le lire.
Et je comprends. Ouais.
Et mes lectures vraiment hyper nécessaires, j'en reparlerai sans doute. Peut-être pas dans LMK parce que j'ai envie de faire des kiffs un peu plus fun.
Oui.
Et qui a notamment été, alors qu'il fait partie de la liste de l'éducation nationale, qui a été en fait interdit dans certains lycées par des professeurs. Enfin, pas par des professeurs, par des directions qui considèrent que ce n'est pas adapté à des ados, alors que, pour avoir été très intéressée pendant longtemps à la question de l'inceste et à quelles sont les mécaniques à l'œuvre dans cette question-là, qui est une énorme question sociétale, c'est juste nécessaire et urgent d'en parler, de lire des témoignages ou des essais, mais c'est vrai que quand on est ado, c'est peut-être un peu compliqué de lire des essais sociologiques sur la question de l'inceste. C'est juste nécessaire, urgent, et c'est possible d'aborder ces questions-là avec un public jeune. En fait.
Et justement, c'est un récit qui est abordable. Enfin, ouais. Dans le sens, l'autrice met vraiment en confiance les lecteurs et les lectrices. Mm. C'est cru par moments, mais c'est aussi un autre point de vue sur l'inceste. Mm. Et on en profite pour recommander le podcast de Charlotte Pudlowski et peut-être Une nuit. Je crois qu'il s'appelle comme ça, oui. Je ne dis pas de bêtises. Et évidemment, La Familia Grande aussi de Camille Kouchner. Je trouve que c'est avec Neige Sinot, trois ressources qui sont accessibles.
Ouais,
parce que comme tu dis, lire un essai sociologique,
c'est difficile.
Ça peut être rude. Mais voilà, bon, on va pas s'étaler là-dessus parce que sinon...
on parle des Crumble parties.
Voilà, on parle de choses un peu plus fun. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer vos petits mots. Je sais plus pourquoi je disais ça.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Et c'est l'heure des kiffs.
Youhou.
Qui de vous deux a envie de nous partager son kiff la première?
Bon, je veux bien. Alors moi, je vous parle de quelque chose qui a été très à la mode en 2020. Moi, je commençais là, j'ai
le
commencé
COVID.
En juillet 2023. Mais non, Animal Crossing.
Ah, waouh, d'accord. J'ai jamais joué.
Voilà, juste j'ai mis le générique.
C'est
les gens qui jouent, c'est vraiment, tu l'entends à chaque fois que tu lances le jeu.
D'accord.
Et alors, pourquoi Animal Crossing?
Qu'est-ce que c'est déjà?
Alors, Animal Crossing.
Comment
c'est
ça,
un...
qu'est-ce que c'est déjà?
Pardon,
impossible.
Tu étais
elle est outrée.
C'est un jeu vidéo qui existe depuis longtemps. Alors, je vais être très approximative dans ce kiff comme d'hab, hein. Mais ça existe au moins depuis le début des années 2000. Mm. C'est un jeu vidéo créé par Nintendo où, en gros, tu gères ton petit truc du village. Mais vraiment, c'est un jeu... pas de gestion, c'est un jeu un peu de déco, où t'es un personnage et t'arrives dans un petit village, les autres petits villageois, toi t'es un humain, mais tout mignon, tu vois, et les autres c'est des animaux, mais tout mignon, chacun sa petite maison, tu peux du coup faire un potager, tu peux pêcher des poissons, bref. Il faut savoir qu'Animal Crossing, donc ça a été le jeu du confinement, tout le monde y jouait parce qu'il est sorti, la nouvelle version de Animal Crossing New Horizons, tu as une île dans ce jeu-là, tu pouvais te connecter avec les autres et tout ça. Ça a été un énorme succès.
Mais franchement, mais quel...
J'ai vu que dans LMK, quelqu'un en avait parlé en novembre 2020. Mais moi, je vous en reparle parce que justement, mon kiff, c'est jouer Animal Crossing en 2023.
Ah. Très bien.
Pourquoi ? Je reviens un petit peu en arrière.
J'ai hâte de savoir, je sais pas pourquoi.
Dommage que vous n'ayez pas la gestuelle de Fanny, parce que c'est oui. hilarant. C'est une pièce de théâtre à mes yeux,
mais
là.
C'est ça, elle met du suspense dans ses
réactions. C'est que je parle avec les mains, là. C'est vraiment... C'est que... Alors, revenons à Fanny quand elle était adolescente. Quand j'étais ado, je faisais les accompagnements à sortie de l'école. En gros, après l'école, comme mes parents ne pouvaient pas venir me chercher, j'allais chez un pote. Et après, mes parents venaient me chercher chez lui. Et en fait, ce pote avait une GameCube et jouait à plein de jeux vidéo. Vraiment, bah, c'est une ancienne console de Nintendo. Il jouait à plein de jeux vidéo et bah, moi, je le regardais jouer. Et je crois qu'en fait, notamment, il jouait à plein de jeux, les Zelda, les plein de jeux comme ça d'aventure et tout ça. Et il jouait à Animal Crossing aussi. Et moi, je n'avais pas de console chez moi. La seule console que j'ai eue, c'était une Game Boy SP. C'était vraiment une sorte de Game Boy Color, mais pas tout à fait... c'était vraiment un truc un peu de niche que mes parents m'avaient offert avec un chouette jeu Zelda, mais qui était très bien aussi. J'ai demandé à ma mère il n'y a pas longtemps, mais pourquoi vous m'avez offert ça ? Elle a dit, je sais pas, c'était intéressant et tout. Et vraiment, c'est une très vieille console. Et donc, j'ai passé une bonne partie de mon adolescence à regarder ce pote jouer aux jeux vidéo. On jouait parfois ensemble, hein, mais là, c'était comme des jeux vidéo où c'est du jeu à la première personne. C'était pas des jeux où tu pouvais jouer à plusieurs. Je me suis toujours dit, un jour, je m'achèterai Animal Crossing. Le temps a passé. J'aime beaucoup les jeux vidéo de gestion, notamment les Sims Is My Beach, clairement. les Sims City, j'adorais Sims City, faire des villes. Ensuite, des jeux, mais très, très... vraiment, s'il y a des gens qui connaissent, envoyez-moi un message, Empereur. C'est un peu comme le jeu Pharaon, qui a été plus connu à l'époque, mais Empereur, c'est dans la Chine, pas médiévale, mais antique, où tu te fais un petit village. Bref, moi, il faut gérer des gestions de flux d'habitants, d'énergie, de nourriture, mon kiff. Moi, je veux pas faire de la guerre. Moi, je veux pas de l'aventure. Moi, je veux gérer des gens.
Construire.
Je veux construire, mais à petite échelle. Par exemple, Civilization, qui est un jeu qui est beaucoup plus gros et tout ça, j'aime pas trop. Non, moi, si on peut gérer à toute petite échelle des jeux mignons, j'adore ça. Et quand le confinement est arrivé, que ça a été hyper à la mode, ben, je me suis dit non, je vais pas m'acheter une console à ce moment-là et tout. Et c'est arrivé, ben, j'en parle souvent, mon nouveau mec. Et qui a été un petit peu le petit démon sur mon épaule.
Ouh.
Là, au début de l'été, qui me dit « Mais si tu veux, j'ai une carte de fidélité Micromania. Viens, on y va. »
Lui, réduc.
C'est ça. Bon, en vrai, on a zéro réduc, c'est pas grave. Lui est un grand, grand, grand... il fait beaucoup de podcasts, jeux vidéo. C'est vraiment, c'est son truc. Il passe son temps à jouer aux jeux vidéo et à en parler. Et vraiment, en fait, je me disais, mais non, mais si je joue Animal Crossing, ça va me prendre tout mon temps. J'avais très peur parce que c'est le problème avec le jeu de gestion, c'est que tu y passes ta vie.
Bien sûr.
Et même, je les ai désinstallés plein de jeux de mon ordinateur parce que j'y passais trop de temps. Donc moi, j'ai très peur de ça, de à quel point je vais aller dans le jeu. Et donc, j'ai craqué parce que je me disais, allez, début juillet, même si je bossais encore, je vais avoir du temps, c'est le moment. Et... Alors voilà, on est allé. Je me suis acheté la Switch Lite. En plus, la Switch, elle est corail, elle est belle, je l'aime. Tu vois, elle a de la même couleur que ton micro, Ariane. Okay. Tu vois, elle est toute mignonne. Et je n'ai que ce jeu dessus, Animal Crossing, et j'adore.
J'ai l'air sur toi.
Alors non, je l'ai pas amené avec moi aujourd'hui, mais je pourrais vous envoyer des photos. Et parce que c'est quand même beaucoup effectivement un jeu de déco, mais c'est un jeu tout cool. Pourquoi c'est mon kiff aussi ? C'est que quand je suis sur ma Switch, je ne suis ni sur l'ordinateur, ni sur le téléphone. Donc je ne bosse pas. Même si, clairement, je joue Animal Crossing parfois en regardant une série, en parlant à quelqu'un sur mon téléphone.
Voilà. Wow.
Ouais, non mais la meuf multitâche. Mais vraiment, j'aime beaucoup ça. C'est un moment pour moi. Et en plus, il y a un petit côté, bah, t'as des petites missions à faire tous les jours. Tu décores, tu aménages, tu t'occupes, tu fais ton petit jardin. C'est vraiment à la Voltaire. Chacun s'occupe de son jardin. Et voilà, comme ça, j'adore. Je passe.
Bim.
Rêve à Candide. Bram. C'est tout ce qui me reste
c'est
de
pas
ma
grave,
prépa
si
littéraire.
Vous ne l'avez pas, on se sent pareil.
Non, bah écoute, je fais ce que je peux. Mais voilà, c'est vraiment ce côté m'occuper de ce petit espace sans zéro pression. Sans qu'il y ait de stress. Et juste, c'est mon petit moment avec moi. Donc, j'aime beaucoup ce jeu pour ça. Et aussi, pourquoi en 2023, c'est un jeu auquel je ne suis pas la seule ? Parce que sachez que, et là, c'est mon mec qui m'a envoyé les chiffres, pour le classement des jeux vendus en 2022, eh bien, Animal Crossing est toujours le deuxième jeu le plus vendu avec 42.
C'est quoi le premier ?
C'est Mario Kart 8 Deluxe, mais le Animal Crossing New Horizons. Donc, pour l'année fiscale 2022, on est à 42 millions de ventes.
Bravo.
Mais what?
Et notamment 11 millions rien qu'au Japon.
Putain.
Donc, c'est quand même un des jeux les plus vendus de Nintendo. Il y a beaucoup de Switch qui sont encore vendus cette année. Oh, il y a Anthony qui passe. Bon, bref. mais c'est pour vous dire que je ne suis pas la seule à jouer pour la première fois à Animal Crossing en 2023, là, maintenant. Donc, déjà, je me sens moins seule. Mais alors, ce qui est super, c'est que je joue aussi avec une copine. Donc, j'ai une copine. Elle vient chez moi, on se fait le thé, on joue Animal Crossing ensemble.
Mais j'adore.
Et en plus, elle est à côté de chez moi, donc elle a vraiment juste, elle a 5 minutes à pied pour venir chez moi.
Oh là là, mais le rêve.
C'est le kiff. Mais du coup, ceci est un appel. S'il y a encore des gens.
Elle essaie de convertir des gens.
Non, mais en fait, c'est que je pense qu'il y a peut-être des gens. Alors, il y a plein de gens à qui j'en parle qui n'y jouent plus, qui ont joué en 2020, qui n'y jouent plus. Mais moi, j'ai envie de jouer avec d'autres gens. J'ai envie de visiter des îles et tout ça. Et j'ai pas trop ça dans mon entourage. Donc voilà, appel à toutes les voitures. S'il y a des gens qui écoutent ce podcast et qui jouent Animal Crossing, ont envie de faire des échanges, ont envie de visiter les îles et tout ça, de voir le cours du navet, comment il est chez moi. Bref,
je suis morte.
Les gens qui savent.
Le cours du
navet. Mais oui. Mais voilà, dit comme ça, ça peut paraître vraiment très dépassé, mais voilà, I'm in. Moi, voilà, j'arrive sur cette vibe très tardivement, mais je kiffe
et
toujours.
Et t'es là, quoi.
Je suis là. Alors, je sens effectivement un petit essoufflement, forcément, au bout de quelques mois à jouer, mais je sens que j'ai encore plein de trucs à faire. Là, je commence à peine à terraformer un petit peu, à modifier physiquement mon île, parce que j'ai pas osé jusqu'à présent, je l'ai touché à peine. Donc voilà, je suis à fond. Donc
oui, parce que t'as quand même des étapes, j'imagine. Oui, d'évolution de.
J'ai pas mal passé d'étapes. Clairement, je suis un peu loin, mais tu vois, mon fil Instagram, c'est Animal Crossing, Drag Queen, Taylor Swift.
Je suis morte. Mot clé.
J'ai que ça tout le temps, alors que j'ai un compte Instagram sur le Moyen Âge. Laisse tomber. Rien à voir. Donc voilà, c'était mon kiff. C'est Animal Crossing en 2023. C'est le feu. Voilà.
C'est génial.
Et on est d'accord que ça se joue pas ailleurs que sur la console.
Oui, c'est sur sa Switch. Okay. Alors, il y a des jeux mobiles pour Animal Crossing. Okay. J'ai quelqu'un déjà qui m'a montré ça. Il me dit, mais non, mais ça, c'est le démon. Et il y a des extensions.
Ouais.
Mais j'y vais pas à pas. Tu vois, je veux dire, j'ai attendu, ça faisait 15 ans que j'attendais de jouer à ce jeu. Donc, je suis patiente.
Pour être tout à fait honnête avec toi, je croyais que c'était un jeu de téléphone.
Animal Crossing ?
Je sais, là, vous allez vous dire que vraiment, j'ai pas de culture.
Non, mais c'est pas grave, je te shame pas. Parce qu'il y a sur téléphone
aussi.
Oui,
il y a eu un truc, j'en souviens.
Enfin, tu vois,
je sais plus le nom, mais oui, il y a en fait. C'est ça, en fait, où tu vas gérer des camps de.
Bon, voilà, on va dire que c'est pour ça que je pensais que c'était sur mobile.
Oui, ça.
Et pas parce que je pensais que c'était comme Candy Crush ou un truc comme ça.
C'est un truc de Nintendo et tout ça. On est à fond sur la Switch. Et avant, voilà, sur la Nintendo DS, ça a été donc sur GameCube et sur tout ça, sur pas mal de consoles. Donc voilà, donc s'il y a des gens qui veulent jouer aussi, contactez-moi.
Tu vas recevoir plein de messages. Je sais pas pourquoi, je le sens.
Mais j'espère, j'espère.
De
moi,
gens
j'ai
qui
envie
ne jouaient plus et qui vont s'y remettre.
En plus, moi, j'ai des poires, j'adore. Les poires. Alors en plus, c'est drôle parce que quand j'ai cherché sur LMK, le titre de l'épisode où on a parlé de ça, c'était les poires, le fruit surcoté. Alors que moi, je suis pas du tout d'accord. Parce que tu as un fruit de base sur ton île et il est différent pour chacun. Il y a, je crois, 5-6 fruits en tout. Et moi, la poire, c'est un de mes fruits préférés. Donc, je suis trop contente.
T'as la poire, toi.
Moi, j'ai la poire. Et moi, je trouve ça trop joli, au contraire. Donc, j'ai pas écouté l'épisode où les gens en parlaient, mais je suis trop contente d'avoir la poire. Donc, si vous voulez vendre vos fruits sur mon île, voilà, let's go.
C'est hilarant.
J'ai déjà fini les fossiles, j'ai déjà fini plein de trucs. J'y joue 2 heures par jour.
Si tu vas avoir des réponses, je suis sûre que tu vas avoir des réponses.
J'espère, voilà. C'était
trop
mon kiff.
Mais franchement, en 2020, ça avait l'air d'être un truc de fou. Moi, j'y ai pas joué non plus pendant le confinement car je n'avais pas de console. Mais l'engouement des gens, c'était incroyable. Quoi.
Bah, je pense qu'à l'époque, et c'est peut-être qu'il y a des gens qui ne veulent plus y jouer maintenant parce que ça leur rappelle le contexte de l'époque, ce que je comprends tout à fait. Parce qu'effectivement, à l'époque, c'était un échappatoire. C'était un monde où justement, tu étais libre d'aller voir tes voisins et tout ça. Donc, je comprends que ça puisse ramener de mauvais souvenirs de jouer à ça maintenant quand il y a joué en 2020. Mais venez, les gars, venez, voilà, il faut inventer une autre temporalité.
On est bien.
Ariane, toi, c'est quoi ton kiff cette semaine ?
Alors, cette semaine, mon kiff, c'est... Je vous ai déjà dit la semaine dernière que, depuis mon installation dans mon appartement, j'ai découvert que j'avais du temps pour moi. Ou en tout cas, plus que ce que je ne pensais en avoir quand j'habitais encore chez ma mère. Et avec ce temps en plus, entre guillemets, j'ai recommencé à lire. Ce qui me manquait beaucoup parce que, bon, vous le savez, je l'ai déjà dit un milliard de fois, j'ai fait des études de lettres. En vrai, j'adore lire, j'adore les romans. Je lis surtout des romans, parfois des essais. Et des romans graphiques aussi. Et voilà, ça me manquait beaucoup, j'arrivais pas à trouver le temps, alors que j'adore ça. Et maintenant, donc dans ma nouvelle routine de meuf indépendante, quand je me lève le matin, je me fais un café et je lis pendant genre 20 minutes.
Wow, genre ouais. Morning routine. Ouais, morning.
Mais c'est génial, mais wow. Miracle morning. Une paix intérieure se dégage de moi, c'est exceptionnel de faire ça, franchement.
Tu dis au monde, non, pas tout de suite, exactement. D'abord pour moi.
Ça a changé ta façon de voir tes journées.
Bah, en tout cas, il faut savoir quand même que j'adore le matin pour sa vibe. Mais je suis pas du tout une meuf du matin. Enfin, moi, mon réveil sonne, j'ai envie de me tuer. Je pense juste à retrouver mon lit le soir, dès qu'on réveille sonne, en fait. Du coup, j'essaye quand même d'apprivoiser ce moment-là et de faire en sorte que ce soit agréable. Et je sais, de toute façon, que quand je vais me lever, que je vais retrouver mon livre, et que je vais retrouver mes petits personnages et mon univers, ça va me faire du bien. Mais bon, toujours est-il que l'impulsion pour se lever, c'est horrible. Et donc là, je viens de terminer un roman qui s'intitule « Tout ce que dit Manon est vrai », qui a été écrit par Manon Fargeton, qui est paru en 2021. Et « Tout ce que dit Manon est vrai », c'est une autofiction. C'est-à-dire que l'autrice romance quelque chose qu'elle a vraiment vécu à son adolescence. Et peut-être petit préambule, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai été hyper intéressée par la question de l'inceste et de comment est-ce que cette domination s'exerce dans le noyau familial. Mais en fait, je suis assez intéressée par toutes les dynamiques de domination en général. Et notamment, là en l'occurrence, la dynamique de l'écart d'âge dans les relations entre guillemets amoureuses.
Ouh, ok.
C'est-à-dire que, en l'occurrence, Manon, elle a 17 ans, elle est passionnée de bande dessinée, elle veut en faire son métier. Et lors d'un salon, elle va rencontrer un éditeur qui a 56 ans. Elle en a 17, je le rappelle. À partir de là, va commencer une relation entre guillemets amoureuse. Et ses parents vont essayer de tout mettre en place pour la protéger. Elle n'a pas conscience de ce qui est en train de se passer dans sa vie. Pour elle, c'est normal. Le sentiment amoureux n'a pas d'âge. Ça peut exister. Elle ne voit pas de problème à entretenir cette relation. Surtout que le mec la manipule, évidemment. Et donc, lui fait croire que c'est ses parents qui sont fermés d'esprit, qu'évidemment l'amour n'a pas d'âge, qu'il devrait être libre de vivre cette relation, que ses parents l'infantilisent, qu'ils essayent de contrôler sa vie, etc. Ce que j'ai trouvé super dans ce roman, c'est que, au-delà de mettre très bien en exergue justement ces mécanismes de manipulation-là, c'est un roman choral. Chaque chapitre est la voix d'un personnage différent, soit de la famille de Manon, soit de ses amis, soit parfois du prédateur ou de sa femme, car il a également une femme qui, elle aussi, elle a genre 30 ans de moins que lui.
Oh, wow.
Oui, c'est vraiment l'enfer. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans ce roman, on n'entend jamais vraiment la voix de Manon. C'est toujours des personnes qui parlent de la situation. Parfois, on entend sa voix à travers les échanges qu'elle a avec les autres personnages, et notamment sa mère. Sa mère occupe une place prépondérante dans le roman parce que ses parents sont séparés et elle vit avec sa mère. Et c'est sa mère qui se rend compte dès le départ qu'il se passe un truc avec ce mec et qu'il y a quelque chose de pas normal et au-delà de quelque chose de purement professionnel, parce que le mec, au départ, lui dit « En fait, moi, je vais publier ta bande dessinée. Tu as du talent, je vais publier ta bande dessinée et ce sera dans ma maison d'édition. » Voilà. Il est pas directeur de maison d'édition, il est directeur de collection au sein d'une maison d'édition. Et donc, en fait, tout ça se mélange, les pseudo-sentiments amoureux, lui qui a du désir sexuel. C'est vraiment l'enfer. Mais j'ai trouvé que c'était très bien écrit. C'est pas non plus cru et voyeuriste, c'est juste réaliste. Et ce qui est, pour moi, hyper touchant, c'est comment est-ce qu'elle écrit ce par quoi est traversée sa mère, qui essaye de protéger sa fille, parfois face à des gens qui n'entendent pas ce qu'elle a à dire, qui trouvent qu'elle exagère. Et qu'ils ne se rendent pas compte que si, en fait, c'est grave ce qui est en train de se passer. Et ce qui est difficile aussi, c'est qu'elle essaye de protéger sa fille, sauf que Manon, elle, n'est pas d'accord avec et ne comprend pas que sa mère essaye de la protéger. Pour elle, sa mère essaye juste d'entraver. C'est juste une entrave à sa relation qu'elle a envie de vivre avec ce gars.
Ouais, elle a 17 ans, elle ne se rend pas compte, quoi.
Ce qui est hyper intéressant, c'est la description de cette relation mère-fille s'effrite un peu, puis elles redeviennent très soudées à fur et à mesure que Manon comprend qu'effectivement, il se passe quelque chose d'anormal.
Voilà. Vous spoilez pas trop?
Non, mais en fait, il n'y a rien à spoiler. Voilà, c'est,
Ouais, on se doute un peu de
voilà.
Qui peut se tramer dans une
évidemment,
histoire.
Évidemment, c'est une autobiographie mais... ou romancée ?
Bah voilà, c'est ça, c'est une autofiction.
D'accord.
Mais ouais. Elle parle jamais, du coup, si j'ai bien compris, c'est que des autres personnes, ouais. Du point de vue des autres personnes, ouais. C'est jamais de son point de vue, ouais. Elle, c'est ça. Ouais. Ok.
Le seul point de vue, entre guillemets, qu'on a, c'est parce que parfois il y a des échanges de mails ou de textos, et là, c'est sa voix. Mais c'est la seule voix vraiment de Manon que nous, on peut lire. Les autres chapitres sont toujours consacrés à la voix de ses amis, sa famille, le prédateur, sa femme, etc. etc., etc. Et bon, c'est sûr que ce n'est pas le sujet le plus joyeux, mais disons que mon kiff, c'est plutôt avoir recommencé à lire, et j'en profite pour vous recommander ce roman-là qui... voilà. Aussi parce que je suis très intéressée par ça, parce que moi j'étais la reine quand j'étais ado pour tomber dans des trucs comme ça. Et souvent, il faut dire que les prédateurs sentent quand les personnes sont fragiles. Bon, alors je vous dis, là pour le coup, je vous spoil pas, mais Manon est une adolescente fragile, parce que pour X, Y raison. Et les prédateurs, c'est quelque chose qu'ils sentent, et c'est facile pour eux de manipuler des ados, déjà à la base, mais encore plus des ados qui ont vécu des choses.
Puis là, quand même, le mec lui dit « je vais publier ta BD voilà. ».
Ce qui est une circonstance aggravante, parce qu'il y a une sorte de subordination en fait, entre les deux. Lui, c'est en quelque sorte son patron, en fait, à la fois.
Mais en plus, 17 ans, il n'y a pas comme quoi, en fait, c'est la majorité sexuelle. Est-ce que c'est encore considéré...
15 ans
bah, c'est 15 non, je ans, me... ouais. Donc c'est... en fait, c'est légal en soi ce qu'il fait, ce qui se passe.
Mais c'est quand
est légal
même du détournement de mineur, non ?
Oui, c'est quand même du détournement de mineur. Et surtout, cette histoire de, de subordination et du fait que en fait, c'est son chef, c'est vraiment une circonstance aggravante.
Oui, parce que j'imagine, sans que tu spoil, mais qu'il devait en jouer aussi.
Bien sûr.
Si tu veux que j'amène ton projet à terme, blablabla.
Les hommes,
ça dégoûte. Et juste, comment t'es... tombé sur ce livre, parce qu'il est sorti en 2021.
Alors, j'en ai entendu parler par une autrice que je suis sur Insta, qui l'a partagé en story en disant qu'elle l'avait lu et qu'elle avait aimé, etc. Et j'ai vu qu'on l'avait à la rédac. Et donc, je l'ai pris et je l'ai lu.
Intéressant. Comme quoi, vraiment, il faut fouiller dans cette bibliothèque.
Ouais, exactement.
Et moi, j'ai enfin fini le livre sur les Vikings.
Super
je l'ai fini samedi soir. Même vraiment, il était mon samedi incroyable à minuit et demi dans mon lit en train de lire. Et on me dit allez, il me reste un chapitre à finir. En plus, il était trop bien, un des meilleurs chapitres du roman, enfin du livre. Et donc là, je vais continuer. Normalement, mon prochain livre à lire, j'ai ramené de chez ma grand-mère du Marcel Pagnol.
Ah, super,
La gloire de mon père.
Génial.
Parce que si je m'appelle Fanny, c'est pas un hasard.
C'est vrai.
Et oui, c'est tout à fait lié à Marcel Pagnol, ma grand-mère qui est de Marseille et tout ça.
Okay.
Donc je me suis dit, allez, j'avais envie d'avoir ces livres chez moi. Je les ai ramenés de chez ma grand-mère parce qu'ils ont toujours été dans ma chambre. Et je vais les lire. Donc j'ai une belle version qui reste dans ma bibliothèque. Et j'ai trouvé des versions poche que je pourrais mettre dans mon sac un peu baladé. Donc je vais me lancer là-dedans. Donc vais-je le finir avant fin 2023 ? Spoiler, je pense pas. Peut-être 2024, voilà, vous le saurez dans un prochain épisode.
Trop bien. C'est trop cool. Je les ai rachetés il y a pas longtemps. Le château de ma mère, la gloire de mon père. C'est un livre que j'avais, enfin des livres que j'avais adoré étant petite. C'est deux des livres préférés, je crois, de mon frère. Et je sais plus pourquoi, qui m'en a parlé récemment en me disant, oh là là, je l'ai relu et c'est une petite Madeleine de Proust et tout. Et du coup, bref, je les ai rachetés aussi. Je ne les ai pas lus.
Et en plus, moi, ma grand-mère vraiment a vécu en fait dans les collines de Marcel Pagnol. Mmh. C'était son enfance à elle aussi.
Ouais.
Pas exactement aux mêmes années, mais clairement, ça lui parle beaucoup tout ça. Donc je me dis voilà, je profite un peu de pour
trop
me rapprocher
bien.
Encore plus de ma grand-mère comme ça.
Trop
voilà.
Cool.
Moi et toi, Marie-Stéphanie, c'est quoi ton kiff ?
Alors. Et moi, mon kiff, ce n'est pas un livre. Ce n'est pas un livre sur l'inceste. Ce n'est pas Tristotique de Nashino, parce que je ne l'ai pas terminé de toute façon. Non, mon kiff cette semaine, c'est la mini-série documentaire Netflix sur l'affaire Bettencourt.
Ah, okay. On reste dans du fun.
Ambiance, on reste dans du fun, mais en vrai, je vais essayer de vous la vendre de façon un peu sympa. Voilà, je sais pas si tout le monde sait ce qu'est l'affaire Bettencourt. Bon, c'est
du nom de la meuf la plus riche de France, c'est ça ?
De Liliane Bettencourt, qui était donc la femme. Elle est décédée en 2017, mais c'était la femme la plus riche du monde.
Du monde,
du monde. Ah ouais ?
Ouais, du monde. Et maintenant, c'est sa fille qui a hérité de ce titre. Donc, Françoise.
Ah oui, donc c'est encore une
Bettencourt
qui est là. Ouais.
Voilà.
Ah ouais.
Mais la femme la plus riche du monde, voilà.
Bon,
du monde.
J'étais persuadée
entier.
Que c'était genre un Elon Musk ou un
Et
Jeff
ouais,
Bezos,
moi aussi. Et ben moi aussi. Et non.
Mais peut-être alors... en son nom propre, en fait, c'est ça aussi peut-être la différence. C'est que là, parce que des fois, c'est peut-être des femmes d'eux qui peuvent être riches, mais c'est pas, elle, ça ne leur appartient pas
peut-être.
À elle. Alors
mais
là, c'est elle qui l'approprie au coup.
Ouais. donc Liliane Bettencourt, c'est, c'était l'héritière de l'empire L'Oréal fondé par son père en 1909, Eugène Schueller, qui était chimiste et qui donc a fondé cette entreprise qui avait porté un autre nom, qui s'est renommée L'Oréal et qui est juste un groupe français industriel de production de cosmétiques énorme, et un groupe français mais énorme à l'échelle mondiale. Voilà, L'Oréal, avec toutes ces gammes de produits, toutes ces stars qui sont les visages de la marque. Enfin bref, c'est une marque qui pèse dans le game, c'est peu de dire. Alors pourquoi on a parlé de cette femme, Liliane Bettencourt, qui, au-delà d'être la femme la plus riche du monde, faisait partie de ce qu'on considérait comme étant la famille française la plus discrète, enfin la famille ultra riche française la plus discrète avant cette affaire. C'était vraiment.
Elle n'avait pas de jet ski, c'est ça?
Je sais pas, elle avait quand même une île. Mais
un grand classique.
Donc peut-être
finalement.
Qu'elle avait voilà, ski, grand là. Classique. Non, enfin quand je dis discrète, c'est que voilà, c'était des gens plutôt donc famille très aisée, bourgeoise et donc pas forcément à étaler, c'était pas genre les Kardashian quoi, enfin voilà.
Oui.
Et comment résumer cette affaire? Donc on va passer par la mini-série. Cette mini-série revient sur ce qu'on appelle l'affaire Bettencourt, qui est une affaire politico-judiciaire qui a éclaté donc en 2010, qui s'est concentrée sur les écoutes, les enregistrements donc illégaux évidemment, du majordome de Liliane Bettencourt.
Oui, c'est voilà. Vrai.
Donc je vais juste poser les bases, parce que cette série permet, et c'est une des raisons pour laquelle aussi je la recommande, de voir un peu les coulisses des familles ultra riches. Parce que
ma passion.
Voilà. Mais tu vas kiffer. On apprend donc que chez les Bettencourt, donc Liliane Bettencourt, elle vivait dans un hôtel particulier de Neuilly, entourée d'une flopée énorme d'employés, donc du personnel
base,
de chambre.
Hein, oui,
voilà la base. Du personnel de chambre au majordome, évidemment, pour gérer toute la maisonnée, et évidemment au gestionnaire de fortune qui donc, est lui dans les enregistrements et qui vient une fois tous les X jours, semaines, lui dire comment vont ses comptes, ses investissements, etc. Donc,
tout va très bien, madame la marquise, quoi.
Voilà.
Ouais, bah, vraiment.
Il faut savoir que la fortune de Liliane Bettencourt et de la famille Bettencourt provient donc, évidemment de la création de L'Oréal, mais parce qu'aujourd'hui, ils sont actionnaires de l'entreprise, donc ils touchent des dividendes, des bénéfices, en fait, à coût de plusieurs millions ou milliards. Enfin, je ne sais pas le chiffre exactement, mais c'est énorme.
C'est clairement des milliards.
Beaucoup.
C'est clairement des milliards. Et donc, on découvre, la série débute vraiment comme ça. C'est un peu un épisode de Succession ou Downton Abbey. On découvre donc ce grand hôtel particulier à nous. Enfin grand, il y a quelqu'un qui à un moment donné dans la série, je sais plus qui, dit ça va, enfin on aurait pu imaginer qu'elle vit dans quelque chose de plus grand. Bon, on n'a pas tous le même référentiel.
Ouais.
Et donc tout débute dans cette maison où on voit que vraiment il y a énormément d'argent parce que l'argent circule et en liquide. C'était, faut savoir que c'était une vieille dame, elle avait 70 ans à l'époque, voire 80, et donc je pense qu'il y avait aussi ce truc de génération de tout est en liquide, et donc on paye la coiffeuse en liquide, des gros billets. Et alors il y a un truc, vous allez je pense halluciner autant que moi, c'est que tellement il y a de liquide qui transite dans cette maison, chacun et chacune sait, parmi les employés et les gens qui fréquentent cette maison, que 1 million d'euros en billets de 500 euros représente la taille d'une brique de lait.
What? D'accord.
Vous voyez la taille d'une brique de lait, genre
oui,
comme
oui,
ça,
oui,
les
oui,
briques
oui,
de lait
ouais.
carrées, quoi, enfin
ouais,
rectangle.
Ouais.
Voilà, donc tu mets des billets de 500 euros dans une brique de lait, ça fait 1 million d'euros.
Mais je sais même pas la couleur d'un billet de 500 euros.
C'est violet.
Ouais.
Waouh.
Ouais. Enfin, je crois.
C'est ma couleur
préférée.
Oui,
ça tombe vachement bien, du coup. Oui, oui, je vous le dis.
Ok. Non,
voilà.
Mais c'est bon,
violet, écoute, en plus, c'est la couleur du féminisme, donc pourquoi pas, finalement. Non. Non, c'est vraiment non. Et d'ailleurs, c'est bien fait parce que la série, donc à ce moment-là, quand on apprend cette petite info un peu rigolote, ils font tomber des dizaines de milliers de boîtes de lait, enfin de briques de lait,
ouais.
pour montrer l'ampleur de la fortune des Bettencourt. Et l'ampleur de la fortune correspond à 30 000 briques de lait. Je vous laisse faire le calcul.
Oui, ça fait beaucoup.
Voilà.
Ça fait beaucoup.
Ouais, je vous laisse faire le calcul. Donc on est sur des milliards.
Oui, donc le petit hôtel particulier à Neuilly, franchement.
Voilà. Autre petite chose qu'on apprend, c'est que donc, alors, je reprends du début, c'est un petit peu brouillon, désolé, mais en gros, ce qui se passe à la base de cette affaire, c'est que Liliane Bettencourt est une femme âgée, un peu seule, enfin très entourée mais un peu seule. C'est comme ça qu'ils la décrivent en tout cas dans la série. Et elle a la main très légère sur l'argent. C'est-à-dire que n'importe qui passe dans son bureau et lui dit, enfin n'importe qui, Liliane, j'aurais besoin d'un petit million, est-ce que tu pourrais pas me dépanner ?
Oh, putain.
Je le fais en gros, hein, mais elle dit ouais, ok. Ouais.
Mais tant mieux, déjà, tu dis, oui, c'est bien.
Bah,
mamie Bidou, donnez-moi son contact.
Et elle le dit, elle le fait comprendre à un moment donné. Il y a une interview qu'elle donne à Marc-Olivier Fogiel, qui est donc dans la série. Enfin, qu'on voit, c'est une vidéo d'archives dans la série. Marco, c'est ça. Et elle lui dit, bah, en gros, elle lui fait comprendre qu'elle est généreuse, que l'argent, elle en a, donc elle en donne.
Oh, elle est folle de dire ça.
Ouais. Et donc, alors là, tenez-vous bien. Ariel Dombal. Oui, Ariel Dombal dans la mini-série.
Dont j'ai le 06.
C'est vrai ?
Bah voilà, je dis ça quand même.
Bah voilà, tu pourras lui dire qu'elle est citée dans cet épisode de LMK.
Qu'on embrasse.
Ariel
J'envoie
Dombal,
pas des messages
qu'on
tous les
embrasse
jours.
Fortement. Ariel Dombal introduit un homme, photographe, qui s'appelle François-Marie Bagnier, tu te rappelles ?
Oui, voilà. Ce nom me dit quelque chose, ouais. Carrément. Ouais.
Introduit un photographe, donc c'était environ c'était dans les années 90-2000, elle a introduit ce photographe, François-Marie Bagnier, à Liliane Bettencourt, donc elle lui présente, et ce mec met un peu de folie dans sa vie, voilà, il est différent des personnes qui l'entourent.
Ah, mais il est différent, tu peux pas comprendre.
Il prend pas de pincettes, il lui parle comme si c'était sa pote, et bref, il devient son meilleur ami, et c'est surtout qu'il réussit en l'espace de 15 ans à lui extorquer 1 milliard d'euros.
Mais le talent du mec, quoi.
Ouais, à coup de Liliane, dépanne-moi 50 balles. Enfin, ça devait pas être 50 balles, mais
ce mec
voilà.
Est toujours photographe hyper reconnu, hein, soit dit en passant.
C'est vrai ?
Bah, alors, je savais pas, tu vois, mais j'ai été hallucinée juste de la peine qu'il a eue. Enfin, ça m'a fait halluciner, ouais. Donc ça m'étonne pas qu'il ait pu continuer à vivre sa vie très paisiblement après. Donc c'est juste un scandale. Mais donc, il lui extorque de l'argent et au bout d'un moment, la fille unique de Liliane Bettencourt dit « Attends, il y a quand même un sujet, ce mec, il vient quand même souvent réclamer de l'argent à ma mère. » Et c'est là que l'affaire familiale, donc là on est en 2007, commence parce que Françoise Bettencourt-Meyers, qui est la fille de Liliane Bettencourt, porte plainte contre François-Marie Bagnier.
Pour abus de faiblesse,
pour
c'est ça ?
Pour abus de faiblesse. Ouais. J'ai plus tout à fait la chronologie, mais vous irez chercher et au pire, vous regarderez la série. Quelques années plus tard, donc c'est je crois entre 2009 et 2010, le fameux majordome, parce que suite à cette histoire dans la maison Bettencourt, ça crée des dissensions. Il y a la team qui est pour Françoise et la team qui est pour Liliane, parce que du coup, la mère et la fille s'embrouillent. Et donc, le majordome décide de glisser un enregistreur sur une petite table, un petit guéridon où il apporte le thé dans le salon de Liliane Bettencourt quand elle reçoit.
C'est de la fiction, quoi.
C'est de la pure fiction, c'est un truc de dingue. Il décide de glisser un enregistreur en se disant bah, « On verra, je pourrais peut-être apporter... » Je ne veux pas parler à sa place, mais on comprend qu'il se dit « Je pourrais peut-être apporter des preuves qui iraient en défaveur de François-Marie Bagnier. » Qui prouverait qu'il abuse de sa faiblesse. Ce qu'on entend dans ses écoutes, donc, qui sont vraiment dans la série... C'est les vraies écoutes dans la série.
Ça a été rendu public ?
Ça a été rendu, bien sûr.
C'est pas une réinterprétation ? C'est les
pas
vrais.
Du tout, c'est les vrais, wow. C'est les vrais droits.
Droit de faire ça ?
Ouais.
Je suis étonnée.
Eh bien si, alors me demande pas pourquoi.
Okay.
Peut-être que vu qu'il y a eu un procès, je sais
ouais,
pas, c'est de l'ordre de
c'est tombé
public.
Dans le domaine public.
Peut-être. Peut-être. Mais c'est vraiment les vraies conversations. Et donc, en fait, ces enregistrements sont arrivés jusque dans les mains de Mediapart, qui en 2010 a révélé certaines parties de l'enregistrement. Mais sauf que au lieu de ne concerner que François-Marie Bagnier.
Et oui,
c'est bien ce qu'il semblait.
On apprend que non seulement Liliane Bettencourt fait de l'évasion fiscale parce qu'elle a des comptes en Suisse à hauteur de millions. Voilà, une île qu'elle n'a pas déclarée également, la fameuse île dont je parlais, dans les Seychelles.
Bon, après, on peut oublier de déclarer une île. Hein,
donc, au début, voilà, ça, on peut oublier de déclarer une île. Ça va, ça m'arrive souvent à moi aussi.
Un petit caillou, là, ça va.
Et donc on apprend ça d'une part, donc déjà elle fait de l'évasion fiscale, on parle quand même de, enfin, elle fraude le fisc de la famille, enfin l'une des familles les plus riches de France, hein, la femme la plus
c'est
riche
honteux.
Du monde.
C'est honteux.
Et qu'est-ce qui se passe d'autre? Tenez, tenez. Eh bien, on apprend également. Alors là, c'est la comptable de la maison du coup Bettencourt qui se confie à Mediapart. Et qui apprend à Mediapart que donc Liliane Bettencourt, par l'intermédiaire de son gestionnaire de fortune, aurait fait des dons, donc non déclarés, d'argent à Nicolas Sarkozy,
cas
à l'UMP, pour financer sa campagne présidentielle de 2007.
Donc et oui, l'UMP, les enfants, c'était un parti politique.
Voilà. Et oui, l'Union pour le Mouvement Populaire, non, c'est quoi ? J'en sais rien, je sais même
c'était
plus.
C'était les méchants, mais sinon,
je sais pas. Moi. C'était la droite.
La droite.
Ah, bon,
les ancêtres des Républicains.
Voilà, les feu l'UMP. Et en fait, à l'époque, le trésorier de l'UMP, c'était Éric Woerth.
Un charmant personnage.
Charmant personnage qui se trouve être, à ce moment-là, en 2010, ministre du budget de Sarkozy, qui est président. Donc là, on est en plein scandale. C'est la première fois qu'une telle chose arrive.
Je crois qu'il y avait encore les guignols à l'époque et qui en parlaient vachement.
Ouais. Ouais. Il y a des extraits d'ailleurs dans la série.
Ah
des
ouais.
guignols.
Il appelait Mamie Zinzin ou un truc
ouais.
comme ça.
Oh là
ça.
Là. Ouais. Oui, c'est très drôle. Il y a une scène où il dit. Il parle de François. Enfin, le guignol, la marionnette de Sarko parle de François-Marie Bagnier. Et t'as la marionnette de Bettencourt à côté qui dit. Qui sort son porte-monnaie avec des billets de 500 en disant « Combien il veut, François-Marie ?»
Oh
et
là
il
lui
dit
«
Mais laisse tomber, mamie zinzin, je t'ai pas parlé, je sais pas quoi. » C'est très drôle. Bon, bref, donc voilà. Et donc, bah, cette histoire de famille, cette pure histoire de famille, mais pas n'importe quelle famille, se transforme en scandale politico-judiciaire et prend une tournure que juste personne ne pensait qu'elle prendrait. Je vais pas vous spoiler toute la série, mais en gros, l'affaire, c'est ça. De l'autre côté, bah, du coup, la fille de Liliane Bettencourt a tout fait pour tenter qu'on reconnaisse que sa mère a été gâtouillée un peu, quoi.
Mmh. Mettre sous tutelle, j'imagine.
La mettre sous tutelle ou curatelle, je ne sais plus. Mais le fait est qu'effectivement, après des expertises, on s'est rendu compte qu'elle n'était pas du tout en possession totale de ses moyens. Et d'ailleurs, on l'entend dans les enregistrements, c'est assez ouf. Parce que vraiment, il y a quelqu'un à un moment donné qui vient lui demander de l'argent. Elle est là, ah d'accord, vous voulez combien ? Ah, et vous l'aimez bien, mon île, sinon. Et elle passe vraiment,
ouais,
genre.
Du coq à l'âne, quoi.
Ouais, du coq à l'âne. Et t'as vraiment littéralement l'impression d'entendre ta vieille grand-mère,
ouais.
Tu vois, quand elle était plus très en forme.
Mmh.
Et tu te dis, mais il y a un sujet, en fait.
Oui.
Il y a un gros sujet. Et elle a été diagnostiquée aussi d'un Alzheimer, d'un début d'Alzheimer à ce moment-là.
Ah ouais.
Donc, ce dont on se rend compte, cette série, elle est géniale parce qu'elle permet de se rendre compte des coulisses de la vie des ultra-riches, des coulisses de cette affaire aussi, même s'il y a plein de petites choses qui manquent. Mais après, voilà, il faut aller se renseigner aussi, lire des livres, lire des articles, lire tout ce qui a été publié à l'époque. Et je ne l'ai pas dit, mais c'est vraiment la première affaire qui a permis au journalisme d'investigation de gagner en crédibilité,
okay.
et de se montrer comme étant vraiment nécessaire. Parce que c'est, je crois, l'une des plus grosses premières affaires sorties par Mediapart à ce moment-là. Et voilà, et moi j'avoue que ça m'a fait quand même vachement de la peine pour Liliane Bettencourt, parce que en tout cas c'est ce qu'ils ont voulu montrer dans la série, c'est que c'était une vieille dame dont finalement tout le monde abusait. Mais quand je dis tout le monde, c'est que je vais pas spoiler qui, mais on se rend compte qu'il y a des personnes qui témoignent, qui faisaient partie de son entourage, des gens de confiance, qui à un moment donné ont aussi essayé un petit peu de...
Mais en vrai, voilà, je comprends. Tu vois, il y a un moment, tu te dis, mais elle donne à tout le monde, aux méchants. Et si toi, elle donne à tout le monde, même aux plus pourris, tu te dis, mais moi, j'ai juste besoin d'un petit peu pour genre rembourser le prêt de ma fille ou je sais pas quoi. Tu te dis, mais c'est tentant au bout d'un moment.
Ouais. Mais ce que l'une des journalistes qui, dans le documentaire, enfin dans la série, il y a Edoui Plenel, Fabrice Arfi de Mediapart qui témoignent, mais il y a aussi Corinne Audouin qui était au service police justice de France Inter et Marie-France Etchegouin qui. Elle a écrit un bouquin sur l'histoire et il y en a une des deux, je ne sais plus si c'est Corinne Audouin ou Marie-Française Chouin, qui dit en fait ce qui était fou dans cette affaire, c'est que là, c'est pas tu viens réclamer 1000 euros pour payer les études de ta fille, c'est tu viens réclamer de quoi t'acheter un appart.
Mmh. Ah ouais,
genre,
c'est vrai que c'est énorme.
Son gestionnaire de fortune, il lui dit, il vient lui demander des thunes pour acheter un bateau. Enfin. Et tu vois, même François-Marie Bagnier, c'est pas 100 000 euros qu'il lui
extorque,
c'est
1
milliard, c'est énorme.
C'est énorme. Oui, c'est énorme.
Et c'est ça qui est intéressant aussi dans la série, c'est que tu te rends compte qu'il y a à tous les niveaux, parce que Les gens étaient très bien payés, les employés de la famille Bettencourt étaient très bien payés, genre les personnels de chambre, c'était 5000 euros minimum le salaire.
Normal, à Paris, voyons, tout le monde est payé pareil, voyons.
Non, mais tu te rends compte que personne n'avait la notion de l'argent. Et ouais. il y a des passages, c'est choquant. Le gestionnaire de fortune vient, Liliane Bettencourt lui dit « Bon alors, j'ai combien sur mon compte ?» Et il lui dit « Alors, sur votre compte, vous avez là 165 millions. Bon, c'est de quoi vivre 10 ans. »
Quoi ?
Non mais, il lui dit « Vous allez toucher 175 millions de dividendes de L'Oréal, donc vous aurez hop le double. Oh » Et toi, tu fais le calcul et t'es là « 165 millions 10 ans ? Pardon ? Mais c'est même pas ce que je gagnerais dans toute ma vie, quoi. »
Oui.
En fait, ça me fait penser un peu à la série The Crown, en fait, tout ce que tu me racontes, dans un style totalement différent, mais en plus, tu vois, avec le côté quelqu'un qui vient chaque semaine, bon là, c'est le Premier ministre anglais, mais ça me fait penser un petit peu à ça, tu vois, c'est que tu vois le côté riche des gens qui sont totalement déconnectés, qui sont dans leur bulle, mais qui parfois, en fait, se reconnectent aux gens, bon, ouais. Voilà. Mais juste, ça m'a fait penser à ça quand tu dis tout ça, en fait.
C'est marrant parce que...
La personne âgée au milieu de tout, ouais. Et tout.
C'est marrant parce que c'est un peu ce que je me suis dit en regardant aussi la mini-série. Parce que ça te donne l'impression que c'est une reine et sa cour.
C'est ça, ouais.
Mais même si elle met pas particulièrement tout en œuvre pour être la reine, mais en tout cas, tu sens qu'il y a toute la cour autour. Chacun veut jouer de son influence, veut essayer de grappiller un peu. Et puis, ouais, surtout, c'est un autre monde. C'est vraiment un autre monde. Donc voilà, j'ai dit plein de choses, j'ai pas tout dit.
C'est sur Netflix, c'est ça ?
Ouais, c'est sur Netflix. C'est sorti le 8 novembre, donc c'était vraiment il y a
très
peu de temps. Et tout ce que j'ai dit, d'ailleurs, est publié dans un article qui est sorti en début de semaine sur le site, qui est un article sur toutes les bonnes raisons de regarder cette série. Et c'est à peu près tout ce que je vous ai dit, en vrai.
Trop cool.
Mais si vous voulez retrouver des infos ou le partager à des gens autour de vous. Mais ouais, franchement, en plus, c'est vraiment 3 épisodes de 40 minutes, donc c'est rapide.
Ah ouais, ok, c'est court.
Ah oui, c'est vraiment rapide.
J'ai eu l'impression de m'endormir moins bête.
Mais je voulais demander, quand tu dis machin, l'hôtel particulier, ils vont vraiment dans le vrai hôtel particulier à Neuilly ?
Qui ?
Bah, quand tu dis on voit donc là où elle vit.
Alors, on voit l'extérieur.
Ok.
Après, l'intérieur, je pense que c'est une reconstitution de certaines pièces. Ça m'étonnerait qu'ils aient tourné à l'intérieur. Ouais. Mais bon. C'était plus fun que d'habitude.
Et en même temps, enfin, tu dis elle était visiblement très mal entourée, la pauvre, tout le monde a abusé d'elle et tout. Et en même temps, tu te poses la question de à quel moment c'est normal que dans une société, une meuf puisse donner à un mec 1 milliard d'euros, quoi. Comment est-ce que des gens peuvent être aussi riches ?
Ah oui, aussi.
C'est flippant. Mais vraiment, quand tu vois là le début de la série sur un peu comment tout fonctionnait chez elle, tu te dis mais bien sûr que tu perds la boule.
Ouais, ouais.
Bien sûr que tu perds la boule dans ces conditions-là. Ouais. Et après, je pense que rien n'était déclaré. Hein.
Bah, c'est ça.
Et c'est d'ailleurs un peu ça le sujet. Et d'ailleurs, tu comprends aussi les jeux d'influence et de pouvoir entre le gestionnaire de fortune. Il faisait un peu copain-copain avec le ministre des Finances. Bon,
il joue pas dans la même cour. Quoi, c'est sûr que
il lui dit faut que je lui parle. C'est lui qui gère vos impôts en mode.
Il y a moyen,
c'est des gens qui sont pas
c'est du délire.
Mais quand t'es à la tête d'une fortune pareille, c'est forcément politique. Enfin, ta famille a un poids, c'est évident. Alors qu'à la base,
on parlera de Taylor Swift une autre fois. Alors, mais
c'est autre chose.
Mais c'est clair.
Voilà les LMKers. Dites-nous si vous êtes rentier ou rentière.
N'hésitez pas. Si vous possédez un hôtel particulier,
peut-être même que vous êtes descendant ou descendante de la famille Bettencourt.
Bien sûr.
En tout cas, on vous salue, parce qu'on n'a rien contre vous. Hein. Écoutez, c'est bien d'être rentier ou rentière aussi, hein, finalement.
Mais s'il y a aussi des gens qui écoutent Animal Crossing, contactez-nous.
Ouais.
Enfin, voilà, on veut de tout.
Écoute Animal Crossing.
J'ai dit qu'à écouter.
Heureusement que t'as une oreille.
Non, mais je peux aussi... Parce qu'on écoute aussi Animal Crossing.
Bien sûr.
C'est de la ASMR aussi, hein, je ne l'ai pas dit, mais vraiment, des fois, les petits bruits comme ça, c'est tellement satisfaisant à écouter.
Ouais, je comprends.
Et puis, s'il y a des gens qui redécouvrent les plaisirs... de la lecture et le plaisir de la vie quand on habite seul aussi, n'hésitez pas à faire un petit coucou à Ariane.
Ouais, on veut vos commentaires à vous, ouais. On est ensemble.
En tout cas, nous, on vous embrasse fort. Oui. Sur les hôtels avec...
c'est clair.
Non, mais c'est vrai, on vous souhaite une bonne fin de semaine, comme ce podcast est diffusé le jeudi, mais qu'il est enregistré le lundi. Et oui, on s'en fout de ce détail, c'est absurde. On vous souhaite une bonne semaine et on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, on a hâte de recevoir vos petits
commentaires. Et mettez des commentaires aussi sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Podcast Addict. Ouais. Dites-nous ce que vous pensez.
Recommandez LMK à vos potes, à votre famille, à qui vous voulez, à qui ça pourrait plaire.
Merci beaucoup les LMK.
Merci. Bisous.
Salut.
Sick of being upsold at gyms?
My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.